monsieur. Bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire ce qu'on dit.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Hola, hola, bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez sur Radio Canu. Bonjour à tous et à toutes celles qui étaient déjà là avec l'émission précédente. Nous sommes ensemble pour un Canu Info de ce jeudi 8 février 2018, avec évidemment Laurent toujours au micro vert, au micro écolo. Bonsoir à toi.
Bonsoir Delphine au micro de droite.
Oui, c'est ça un peu le couleur des... face à moi, il y a le micro
couleur
bleu.
De la droite et du flic.
Donc évidemment, ce soir, nous allons vous parler de choses extrêmement importantes, comme les inondations, parce que ça mouille.
Ah ouais, super,
donc on va vous expliquer ce soir comment passer entre les gouttes en 10 points. Voilà, on vous parlera aussi de comment fabriquer son sac de barrage à inondation soi-même, pour que cela ne vous coûte pas cher. Nous reviendrons aussi sur la neige et quelles bottes en fourrure porter pour supporter cette neige. Nous parlerons aussi des meilleures chaînes pour vos vélos, hein, puisque vous savez, on n'aime pas les voitures dans cette émission, mais par contre, comment bien entourer la roue de votre vélo pour pouvoir glisser sur la neige.
Il n'y a pas de chaîne pour vélo.
Tout de suite, tu me casses nos rêves. Nous parlerons aussi de l'hiver, parce que ça caille. Hein, et nous aurons un grand débat sur le blanc, est-ce une couleur en référence, évidemment, au froid et à la neige.
Et on parlera de l'heure d'hiver et de l'heure d'été aussi, peut-être.
Et nous aurons, oui, de grandes discussions comme ça, parce que ça a beaucoup, beaucoup quand même occupé les médias papier, radio et télé, cette neige qui a envahi plutôt l'île de France. Hein, d'ailleurs, nous avons été épargnés par chez nous. Mais comme quoi, toujours, les intempéries, c'est quand même le summum de l'information en France, dans d'autres pays aussi. Hein, mais chez nous, on sait quand même très, très bien faire. Je donne quand même la prime, l'Oscar, le César, enfin le machin qui brille, à France Info, vraiment une radio que nous adhérons vraiment particulièrement et que nous suivons toujours avec un enthousiasme de plus en plus important, qui a fait une émission spéciale quand même cette semaine sur la neige.
Sur l'hiver, quoi.
Un truc de fou. Alors, on remerciera quand même le grand soir de France 3 de nous avoir quand même parlé de ces gens qui étaient à la rue, sous ces trompes de neige à Paris, et qui, ben ouais, ont froid pour de vrai, on pense à eux et à elles. Parce que ça, c'est une vraie galère et c'est un vrai sujet de parler des gens qui sont dehors, qui n'arrivent pas à se faire héberger.
Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid d'ailleurs.
Ouais, mais la pluie, c'est pareil, hein. Pour le coup, on en rigole, mais ça mouille. Mais quand vous êtes dehors, c'est une vraie galère parce que l'humidité, ben ça vous rentre dans le corps, ça vous rentre dans les os. Donc là, on a quand même eu un ou deux médias qui ont quand même eu la gentillesse de nous parler autre chose que des problèmes et des galères de ces automobilistes qui se mettent en travers de la route, hein, sur l'autoroute, sur les nationales et tout ça, de ces petits problèmes de livraison qui ne se font plus,
de l'économie qui ralentit, tout ça.
Pour l'instant, il se passe des tonnes de choses. Ce soir, on a fait le choix de pas forcément vous parler de ce qui se passe dans les lieux réquisitionnés à Lyon. Alors oui, je dis lieux réquisitionnés parce que c'est un terme plus militant que squat. Squat, c'est un mot que moi, j'aime employer, moi moi-même, mais souvent dans les mots politiques, dans les mots des politiques aujourd'hui, le mot squat, ça veut dire un lieu abîmé, dégradé, alors que non, le mot squat, entre nous, c'est un lieu qu'on va occuper, c'est un lieu de vie, un lieu d'habitation ou un lieu de partage, hein, ça dépend. En tout cas, c'est un lieu souvent collectif, mais qui peut être aussi un lieu d'habitation individuelle, hein, ça existe dans certains quartiers, des gens, des familles vont simplement ouvrir un lieu. Là, il est vrai que sur Lyon, il y a un certain nombre de lieux qui ont été réquisitionnés parce qu'il y a des tas de gens qui sont à la rue, qu'il y a aussi des bâtiments qui sont inoccupés. Alors du coup, il y a des collectifs qui s'installent. Et il s'est passé plein de choses avec les forces de l'ordre qui se rentrent hein, dans ces lieux occupés, qui vont chasser des gens, qui pourtant réagissent à ce qui se peut se passer aussi sur Lyon. On pense à la cabine, par exemple. Voilà. Et moi, je vous envoie plutôt lire les textes de ceux et celles qui vivent la répression, qui vivent aussi ces ouvertures, mais aussi des moments de bonheur. Hein. Et c'est à lire tout ça sur Rebellion, hein, sur le site internet, bien évidemment. Je pense que, voilà, moi j'ai fait ce parti-là, vous pourriez me le reprocher, bah tant pis. Je préfère que vous alliez lire les propos de ceux et de celles qui vivent ces expériences plutôt que nous, on aille vous rapporter des choses qu'on n'a pas vécues nous-mêmes. En tout cas, c'est quand même à lire parce que Colomb n'est plus là, monsieur Colomb, monsieur Gérard Colomb, mais le reste des politiques qui restent ont une politique tout aussi répressive envers ceux et celles qui militent pour l'ouverture de ces lieux, qui militent pour éviter que des gens restent dehors dans le froid et dans la pluie. Aujourd'hui, on a un maire à Lyon, des présidents de métropole qui prennent des décisions qui vont à l'encontre de la protection de tout un chacun, et en particulier de ceux et de celles qui souffrent, qui sont le plus en difficulté. Et donc, il y a des gens qui s'engagent et qui se prennent la police dans la tronche, et la police qui sort des armes hein, pour réprimer, pour faire peur à ses occupants et ses occupantes. Des lieux qui sont envahis par la police parce qu'on vient chercher des gens pour les mettre en garde à vue sur des histoires de farine qu'aurait pris...
Qui a pris,
tout à fait. Mais enfin, c'est pas bien méchant. Hein. Ça reste de la farine, rappelons-le, par rapport à des matraques que certains vivent, des coups de matraque. Voilà, ça reste que de la farine, c'était pas très grave. Et il y a quand même une grosse violence sur Lyon. C'est-à-dire que M. Colomb n'est plus là, mais la violence, elle reste, la répression, elle reste. Donc je vous envoie à lire tout ça, tout ce qui se passe dans les squats et les lieux réquisitionnés sur Lyon. C'est vraiment important qu'aussi vous puissiez lire tous et toutes ces informations. Alors, donc ce soir, on va parler de plein de choses.
Ouais, on va commencer par une petite partie internationale qui nous emmène au Proche-Orient. La première info, c'est sur Israël-Palestine. Une petite histoire de mort, d'assassinat, un classique, on va dire, dans la tradition locale. Alors, c'est une longue chasse à l'homme, une très très longue chasse à l'homme, qui a débuté donc il y a quelques semaines entre un Palestinien et les forces d'occupation, les forces de répression, les forces policières israéliennes, c'est un peu tout le monde, contre un Palestinien qui s'appelle Ahmad Jarrar, qui a fait des choses, qui était recherché pour le meurtre d'un colon, donc quelqu'un qui s'installe sur une terre qu'il vole, ce qui ne justifie naturellement pas le meurtre, hein, bien évidemment, mais ça explique un petit peu pourquoi ce Palestinien a réagi comme ça, hein. Sans le justifier, je le répète. Et donc il était poursuivi, ce Ahmad Jarrar, depuis plusieurs semaines, et la police israélienne n'a pas été très très bonne, puisqu'il a fallu attendre mardi pour que Ahmad Jamal soit repéré, et au final tué, parce que bon, il fallait quand même s'en débarrasser, même si on pourrait dire que c'était peut-être de la légitime défense. Les informations divergent. C'est vrai que le site d'information israélien YNET raconte un petit peu l'histoire. Donc ils avaient repéré, et donc c'est un site israélien, donc forcément orienté, ils avaient repéré l'habitation, enfin la maison où était réfugié Ahmad Jarrar. Dans la nuit de lundi à mardi, ils sont arrivés devant, ils ont tiré une sorte de missile, hein, une sorte de roquette, hein, pour essayer de détruire la maison. Ensuite, vraisemblablement, le Palestinien est sorti. Il serait sorti armé, d'après eux, et donc les services de sécurité l'ont tué, on va dire ça comme ça. Bon, on sait pas bien s'il était vraiment agressif ou pas. Ce qu'on notera, c'est que du côté israélien, on est très content, on se justifie. Un pays qui fait semblant de pas appliquer la peine de mort, mais qui là l'applique vraiment, et qui s'en glorifie en plus. Hein, voilà. Alors bien évidemment, tuer un colon, c'est pas forcément la meilleure solution pour essayer de se débarrasser des colons, quoique vu que les colons sont là depuis des années et qu'il n'y a plus aucun espoir de dialogue et de solution pacifique, on peut quand même comprendre la réaction épidermique, hein, comme on comprenait la réaction des résistants français qui allaient tuer du nazi ou qui allaient tuer de l'occupant, hein, enfin du coup de l'occupant nazi ou allemand. C'est un peu la même démarche, hein, qui est mise en œuvre par les militants palestiniens qui résistent et qui finalement, dans des situations extrêmes, n'ont plus que ce choix-là, ce choix de la lutte armée ou de la résistance armée. Alors, bien évidemment, les réactions du côté des Palestiniens sont essentiellement du côté des mouvements de résistance armée. Le djihad islamique a dit dans un communiqué, je cite, que Jarrah représentait la méthode réelle de résistance que vivent les Palestiniens et que la victoire de Jarrah ne serait complète que par le déracinement et l'expulsion de l'occupation. Bon, voilà, il glorifie un petit peu Jarrah. Après, les propos tenus sont pas non plus des appels à la haine, sont juste des appels à ce que l'occupant arrête d'occuper. Hein, ce qui paraît logique, hein, au niveau droit international. Du coup, le djihad islamique est plus dans les clous qu'Israël, hein, qui soit disant une démocratie. Les brigades Al-Aqsam, donc une des branches proches du Hamas, mais plutôt militaire, a présenté ses condoléances. présentant Jarrah comme le leader de la cellule Al-Qassam, qui a mené l'attaque héroïque à Naplouse il y a quelques semaines, donc contre ce fameux colon, et le Hamas lui-même, la branche plutôt politique, a dit qu'il présentait les condoléances pour Jarrah, qui a, je cite, dérouté la sécurité de l'occupation, ce qui est vrai pour le coup. Le Hamas a ensuite appelé les combattantes de la résistance en Cisjordanie à répondre aux crimes israéliens d'assassinat du héros de la résistance, Ahmad Jarrah. Donc Ahmad Jarrah, il avait 24 ans, c'est le 10e palestinien tué par les forces israéliennes d'occupation cette année. On n'est que début février, donc ça commence très très fort. Ce qu'on note quand même, c'est que finalement, il y a plus de solution politique, hein, en Palestine, plus personne n'en parle, plus personne met en œuvre quoi que ce soit. La résistance palestinienne se limite à des gens comme Ahmad qui, de par eux-mêmes, quasiment, vont attaquer un colon qui passe par là sur une route, ce qui n'apporte bien évidemment qu'une solution non plus, mais qui va même pas faire fuir les colons malheureusement. Du coup, on sent qu'il y a un désespoir et qu'il y a plus de solution et que Israël est réellement en train de gagner cette occupation, vu que aucun pays arabe autour d'Israël, l'Égypte, la Jordanie, personne ne vient soutenir la Palestine aujourd'hui, personne ne soutient ses combattants, personne ne soutient le palestinien de base qui subit l'occupation, l'humiliation tous les jours. Et on a, voilà, c'est finalement ces petites histoires, un palestinien vient tuer un colon et l'armée vient tuer un palestinien. On est dans une phase quand même de désespoir assez total et de solutions inexistantes. Et dans la série Les solutions inexistantes, dans un pays qui est quand même un poil plus pacifique, on va parler un petit peu du Liban, puisque on a vu cette semaine un film qui s'appelle L'Insulte. Insulte, qui est un film réalisé par Ziad Doueri. J'espère que je prononce pas trop mal, cinéaste libanais qui s'était fait connaître par un film excellent, hein, qui s'appelait L'Attentat.
Tourné en Israël.
Ouais, alors du coup, il est souvent classé, il a été pas mal qualifié de traître par les Libanais, parce qu'il avait tourné, a priori aussi peut-être avec des fonds israéliens, sur un film en Israël, qui était un film vraiment génial, tiré d'un livre tout aussi génial, sur il est médecin, je crois, qui découvre que sa femme a fait un attentat.
Qui cherche à comprendre
pourquoi sa femme a fait cet attentat contre l'occupation et contre les Israéliens, alors qu'il n'avait rien perçu de tout ça, et l'histoire était vraiment très très bien. Là, on est dans un autre contexte, une histoire purement libanaise.
On pourrait préciser quand même que on a une production française, c'est-à-dire que c'est encore un réalisateur qui a du mal à trouver des fonds dans son propre pays. Oui. C'est vrai que le Liban n'est pas très riche au niveau de l'argent pour la culture, et on y retrouve par exemple en producteur et productrice Julie Gayet, par exemple, qui, à côté de son métier de comédienne qu'on a pu connaître, est aujourd'hui très investie dans le financement du cinéma, et en particulier du cinéma international.
Ouais, et du coup, c'est bien, hein, parce que l'idée de financer le cinéma libanais est une très bonne idée. Donc voilà, alors l'histoire, c'est une histoire d'insulte entre deux hommes, un palestinien donc réfugié, voilà, et un chrétien libanais qui est plutôt du genre intégriste, politique, enfin classé à l'extrême droite. Hein. Dès le début, on voit des discours politiques. Il a, d'ailleurs, le film commence par une scène de meeting politique par la droite chrétienne libanaise, ceux qui sont issus des phalangistes, hein, de la guerre civile. Donc le père Gemayel en image là qu'on voit au début du film, et ça part d'une insulte et ça va devenir énorme juste parce que tous les deux restent sur leur position et qu'il n'y a pas de dialogue possible. C'est un film désespérant quand même sur l'absence de d'envie de dialogue. Ils ont tous deux une histoire terrible. Et la haine du chrétien libanais, elle est totalement compréhensible, on la découvre tout au long du film. Et le comportement du palestinien est tout aussi compréhensible, sauf qu'à un moment, bon, faudrait faire autre chose que se haïr, quoi.
C'est ça. Mais en fait, ça reflète très bien aujourd'hui la situation du Liban. On vous le rappelle, si vous l'aviez oublié, c'est alors entre 16-18 communautés, hein, selon religieuse. Les saisons et les années, identitaires, religieuses, mais aussi identitaires, puisque chez les chrétiens, il va y avoir différentes communautés, chez les musulmans tout autant. Donc tout ça est très compliqué. Donc on a ce Tony et ce Yasser qui sont aussi deux générations différentes. Tony qui tient à son quartier, parce que si c'est quand vous allez à Beyrouth, chaque quartier a son identité et sa communauté. Donc c'est très très compliqué de s'insérer dans un autre quartier qui n'est pas le vôtre. Pour vous donner un exemple, si vous êtes anarchiste et libertaire, à Beyrouth, vous allez habiter plutôt dans le quartier dont vous avez grandi, et même si c'est chez les chrétiens, avec les petites statues de Marie et de Jésus de partout, vous n'avez pas le choix parce que vous restez un petit peu là où vous avez grandi et là où vous êtes accepté aussi.
C'est aussi les quartiers chrétiens qui sont les plus cool entre guillemets sur pas mal de choses.
Alors ils le sont pas tous, mais
pas
c'est
en France,
vrai,
mais là-bas.
Il faut donc Tony est dans son quartier, il voit arriver ce contremaître, Yasser, palestinien que dès le départ il va détester parce qu'il est palestinien, et c'est un affrontement très bête sur des travaux.
Hein, alors que Yasser fait un travail gratuit pour réparer son évacuation d'eau de son balcon, et le chrétien libanais le refuse.
Et c'est et part, cette voilà. discussion, cette insulte hein, que Yasser va donner contre Tony, qui va faire une histoire incroyable, qui va aller jusqu'en justice, jusqu'au tribunal, et qui va aller jusqu'à la présidence.
Parce qu'à la tête de l'État, ça devient une affaire d'État.
Avec des affrontements dans la rue, avec la police, entre communautés, des insultes qui continuent à émerger de partout. Et c'est comment deux communautés arrivent à travers deux personnages à se détester, à se haïr, sans même qu'on arrive à parler du pourquoi, parce que le Liban, c'est aussi un pays de tabous sur son histoire. Il n'y a pas d'histoire officielle sur cette question de la guerre civile.
Et du coup, le procès permet de faire ressortir des choses. Et même si, alors, le film n'est pas totalement pessimiste, puisque à la fin, il y a une note d'espoir, puisque le Palestinien fait le.
Tu n'es pas obligé de raconter la fin. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu te coupes la parole. Bon, tu peux laisser aux gens se demander ce qui va se passer quand même sur le terme de ce procès, de cette rencontre entre ces deux hommes.
Et les comédiens sont géniaux.
Enfin, alors oui,
il y en a même un qui a eu un prix à Venise, et meilleur. Interprétation masculine, c'est Kamel El-Bacha qui a eu le prix. Ouais. Et il faut quand même savoir que le film est nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger. C'est la première fois qu'un film libanais est nominé aux Oscars. Donc on espère qu'il va l'avoir, hein, parce que ça serait pas mal pour le cinéma de la région là-bas.
Mais il y a aussi deux beaux personnages de femmes, trois personnages de femmes, puisqu'il y a effectivement les deux épouses, les deux femmes, des deux protagonistes, et puis il y a cette avocate et aussi l'autre avocat, le vieux. On ne vous raconte pas tout pour vous laisser un petit peu quand même découvrir aussi ce film, ces rencontres entre ces deux avocats, comment on peut aussi s'opposer dans un pays alors qu'on se connaît très bien. Et c'est aujourd'hui toute cette histoire qu'il faudrait que le Liban accepte. C'est-à-dire la guerre civile, elle est finie, elle est passée, et pourtant il y a aujourd'hui encore des communautés qui se font la guerre, qui ont une haine permanente sur des choses qui n'ont pas finalement été expliquées, traduites, et donc de génération en génération, on continue à se haïr. Alors là, il y a des excuses des deux côtés, hein, comme tu le disais au départ. Mais cette haine-là, elle dépasse finalement la propre histoire personnelle pour aller finalement, tu es palestinien, donc j'ai de la haine contre toi parce que les Palestiniens ont fait des choses. Et à l'inverse, je te déteste aussi parce que tu es chrétien. Ce qu'il faut aussi bien se rendre compte, c'est que ça nous raconte aussi une histoire sociale du pays. Yasser est un Palestinien qui n'a pas le droit de travailler au Liban et qui est donc un employé au noir, illégal. Et ça nous raconte aussi ça, ce cinéma libanais, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'à travers ce grand procès, cet affrontement, on a aussi toute l'histoire du Liban qui apparaît derrière, avec les réfugiés palestiniens qui sont là quand même depuis longtemps maintenant.
Depuis 1948.
Avec les voisins syriens. Et aussi les réfugiés syriens, et c'est cette construction, et aussi avec ces problématiques, moi je trouve politiques, où on a des politiques qui ne tiennent pas la route aujourd'hui. Le Liban, il finalement a besoin peut-être d'une classe politique pour avoir une vraie démocratie et donc pouvoir se construire aussi en train que collectif.
Alors ça paraît difficile, et ce que dit le film d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas eu de réconciliation nationale après
tout
la guerre
fait,
civile. Du coup,
fait.
On est resté par communauté. Donc on n'est pas de droite ou de gauche au Liban. On est chrétien druze, enfin druze, chrétien maronite, on est chiite, sunnite, et puis là il y a encore des divergences. Et du coup, on ne définit pas une politique par une couleur, par un vrai choix politique, social, de droite ou de gauche. Et du coup, ça n'a pas de sens. Et du coup, le pays n'avance pas à cause du fait qu'on vote pour une communauté et pas pour des idées. Voilà.
Et c'est vrai que, par exemple, pendant très longtemps, c'était certains partis chrétiens qui jouaient un petit peu les mouvements de « on va plutôt faire élire tel groupe plutôt qu'un autre ». Et aujourd'hui, c'est le Hezbollah qui semble avoir un petit peu ce rôle de « je vais m'affilier avec plutôt tel groupe chrétien ou tel groupe musulman ou tel autre groupe là-bas ». Et c'est aujourd'hui le Hezbollah qui est à la fois haï, parce que c'est les terroristes, mais en même temps qu'on peut pas mettre dehors parce qu'ils ont sauvé le sud-Liban,
face
à l'armée israélienne. Donc il y a cette difficulté là et qui fait que ben ça se retrouve dans toute la classe politique, dans toute la construction du Liban et dans sa démocratie. Et c'est bien un vrai problème aujourd'hui pour que le Liban se développe, mais aussi en termes économiques, très clairement. Hein.
Et on rappelle que contrairement à ce que disent les dirigeants israéliens, Israël n'est pas la seule démocratie dans la région, puisque le Liban, malgré une démocratie un peu compliquée, est une démocratie quand même.
Oui, bah, des fois, les Belges, ils nous ont fait un peu des coups pareils, hein, à pas arriver à avoir un gouvernement. Donc,
c'est vrai. Non, on rappelle,
faut pas oublier que c'est pas si simple.
Il y a deux États démocratiques dans le coin, et pas simplement Israël. Et au Liban, il y a une vraie démocratie, une vraie presse libre. Il y a plein de choses intéressantes dans ce magnifique pays.
Et ce film a fait près de 120 000, 130 000 entrées pour un pays qui a quoi, 6 millions d'habitants, un truc comme ça. C'est extraordinaire.
Voilà. Et vous pouvez, vous aussi, y aller, il joue au cinéma en ce moment. On change de sujet, on va parler d'énergie et d'environnement du côté francophone, français même, tout court d'ailleurs. On va commencer par parler de Linky, parce que ce fameux compteur que les imbéciles qualifient d'intelligent, mais qui est juste un compteur connecté, hein, il n'y a aucune intelligence mise dans un appareil électronique de ce genre-là, est critiqué par la Cour des comptes. C'est une espèce de rêve pour l'écolo et pour le je sais pas comment on pourrait se qualifier, que nous sommes, en tout cas, des gens qui résistent à ce compteur, puisque quand la Cour des comptes attaque un truc comme ça, ça nous fait plaisir. La Cour des comptes, on rappelle, hein, et eux, ils regardent que le côté financier, c'est pas des révolutionnaires, c'est pas des anarchistes, c'est pas des écolos, c'est que le côté argent qui compte, et ils analysent là-dessus. Et eux, ils se rendent compte que le déploiement de Linky, qui est fait, on rappelle, par Enedis, hein, l'ancienne filiale d'EDF qui s'appelait ERDF, qui a été lancé en 2011, qui doit s'arrêter le 31 décembre 2024. Et là, il y a donc le rapport annuel de la Cour des comptes qui a été présenté hier, est très sévère sur Enedis et sur son compteur Linky, notamment au niveau financier. On rappelle que ce compteur, il coûte 130 euros à l'achat et installation. Ça fait un coût total de déploiement de 39 millions de compteurs, et donc ça c'est le nombre de compteurs, et le coût c'est 5,7 milliards d'euros, c'est quand même pas mal, hein, 5,7 milliards d'euros, et contrairement à ce qui avait été annoncé, ça sera pas gratuit pour le consommateur, et ce que redit donc effectivement la Cour des comptes, c'est que ça va être entièrement payé par le consommateur. Et non seulement ça va être payé par le consommateur, mais en plus, Enedis va faire du bénéfice dessus. Alors comment ils font du bénéfice? Parce que pour l'instant, c'est Enedis qui paye les compteurs. Pour ça, ils ont emprunté. Ils ont emprunté à des taux très favorables, puisqu'ils ont emprunté à la Banque Européenne d'Investissement à 0,77%. Et ils vont facturer le compteur dans quelques années, pas tout de suite, avec un taux qu'ils ont le droit d'appliquer de 4,6%. Hein, pour les intérêts, enfin, on va dire la différence de moment entre le moment où ils ont acheté le compteur et le moment où on l'installe et on va le payer, enfin, et le moment où nous on va le payer. 4,6%, voilà, d'intérêts qu'ils vont facturer aux consommateurs alors qu'ils ont payé 0,77%. Ils s'engraissent donc sur le dos des consommateurs. C'est ce que dénonce la Cour des comptes, qui dit, ben voilà, c'est financièrement une arnaque. Hein, c'est officiel, ils ont le droit de le faire, ça a été décidé, mais c'est au détriment du consommateur qui va payer non seulement le compteur, mais qui va payer plus cher que s'il le payait directement, ce compteur, en permettant à Enedis de gagner un peu plus d'argent. Donc voilà ce qui est dénoncé en gros par la Cour des comptes.
Oui, très rapidement, je pense qu'il faudra qu'on suive ce qui va se passer en Ariège, au tribunal de Foix, puisque c'est un retraité, Gérard, on va l'appeler par son prénom, qui s'est retrouvé au tribunal pour dégradation du bien d'un chargé de mission de service public, puisque c'était en avril 2017, quand les techniciens sont arrivés pour lui poser le Linky, lui, il avait tout barricadé, pour pas qu'il puisse accéder à son compteur qu'il avait, qu'il aimait, a priori, et donc ça n'a pas plu à Enedis, qui donc, l'attaque. Il se retrouve donc au tribunal. Alors on en saura plus sur sa sanction le 4 avril prochain, mais en tout cas il est soutenu par le collectif Touche pas à mon compteur ariégeois. Voilà, on suivra un peu ce qui se passe et ce qui peut se passer si vous-même vous vous opposez.
Et on rappelle que la Cour des comptes a aussi dit qu'il y avait une arnaque sur les soi-disant bénéfices du dispositif. On rappelle que soi-disant on peut regarder sa consommation. Actuellement, ça serait prévu pour être toutes les 10 minutes, 30 minutes ou une heure. Actuellement, votre compteur, vous pouvez regarder toutes les secondes. Hein. Vous voyez les chiffres défiler, vous pouvez le noter et revenir 5 minutes après et vous regardez combien vous avez consommé. Hein, ça, c'est super facile. Avec le Linky, c'est pas possible puisque vous n'avez pas forcément l'afficheur et voilà. Et que ça va pas être possible de le faire sur le long terme. Enfin bon. C'est quand même une grosse arnaque. On rappelle quand même ce qui n'a rien à voir avec le sujet, mais avec cette info de critique financière du Linky et d'arnaque du consommateur par le Linky, c'est qu'on peut encore résister à Linky, hein, ce que Radio Canu fait par exemple, puisque tant que le compteur est installé chez vous, pour l'instant, vous pouvez ne pas ouvrir la porte aux gens qui viennent l'installer.
Après, il faut la refermer très vite si vous l'avez déjà ouvert.
Voilà, parce que vous êtes chez vous et qu'il faut une autorisation de justice pour rentrer chez vous. Donc pour l'instant, c'est tout bon, vous pouvez résister. Le mieux, ce qui est conseillé par certains petits malins, c'est quand vous avez un appel ou une lettre et qui vous donne un rendez-vous, vous acceptez un rendez-vous à un moment où vous n'êtes pas là. Et vous le faites, comme ça, la première fois, ils ne vont pas être contents, vous vous rappelez, oh, vous revenez, vous redonnez un deuxième faux rendez-vous.
Oui, c'est les conseils que donnent les collectifs.
Voilà, et au bout de deux fois, ils arrêtent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des entreprises qui font ça. Ils sont payés à l'installation. Et ils ont sous-traité, Enedis, à des entreprises. Les entreprises, elles ne vont pas perdre du temps à aller tout le temps chez les personnes qui refusent, puisqu'elles ne sont pas payées chaque fois. Donc elles ont une liste de noms, elles vont faire les gens qui acceptent, parce qu'à chaque fois que les gens acceptent, eux, ils travaillent réellement et ils gagnent de l'argent. Donc c'est l'astuce actuelle. Quand on a le compteur à l'intérieur de chez soi, c'est le cas des appartements en ville en général, pour désespérer en fait et pour éviter après qu'on soit relancé tout le temps pour les fatiguer, pour qu'ils attendent. Bon, ils arrêtent. Après, on imagine bien que dans le long terme, on aura l'obligation et ils arriveront à rentrer chez nous de force avec l'action de la justice. Mais pour l'instant, c'est pas le cas.
Alors, c'est vrai que nous, on a été contactés il n'y a pas très longtemps par quelqu'un qui voulait savoir comment résister face à ses courriers pour changer son compteur. Et malheureusement, le compteur était à l'extérieur. Et alors là, ça devient très compliqué, puisqu'on est obligé de faire comme Gérard, c'est-à-dire barricader les choses. Et donc, de se retrouver au tribunal, ce qui évidemment est très problématique et coûte très cher. Donc, c'est pas forcément la bonne méthode non plus individuellement. Mais en tout cas, ça n'empêche pas de se renseigner individuellement et peut-être de rejoindre aussi un collectif près de chez vous.
Voilà. Alors, toujours dans les notions d'environnement et d'énergie, on va parler des pesticides. Alors, je ne vais pas détailler. Il y a un rapport de 44 pages qui est disponible sur le site de Génération Future, qui est un rapport du Pesticide Action Network. Donc il y a une version anglaise et il y a une version française. La version française fait 44 pages et qui explique un petit peu ils ont analysé en fait les tests que faisait l'Europe notamment sur les pesticides et d'où venaient ces tests. Et ils se sont rendu compte sur les 12 méthodes d'évaluation de risque, il y en a 11 qui ont été données par l'industrie. Donc en fait, dans ce qui est mis en évidence par cette étude, c'est que ces tests, ils sont orientés pour minoriser les résultats négatifs sur les tumeurs, sur les résidus de pesticides qu'il peut y avoir dans l'eau, sur l'impact sur les abeilles. Enfin, il y a tout un process pour faire que ces méthodes d'évaluation des risques des pesticides soient à l'avantage des pesticides et au désavantage des êtres vivants, hein, puisque ça touche les insectes, les animaux et les êtres humains. Voilà. Alors, c'est tout expliqué dans le rapport. C'est notamment le International Life Science Institute, ILSI. C'est le lobby de l'industrie, on va dire, des pesticides, qui a conçu une grosse partie de ces méthodes, qui est parvenue à infiltrer ce qui est bien expliqué dans le rapport, l'Agence de sécurité sanitaire européenne, l'EFSA, qui est arrivée à infiltrer l'Organisation mondiale de la santé et qui est arrivée à imposer, donc, c'est dans 75% des cas étudiés par ce groupe Pesticide Action Network, qui est arrivé à s'incruster donc dans 75% des cas étudiés des méthodes d'études. Du coup, tout est minorisé dans tous les cas. Tout ce qui est expliqué et très détaillé dans le rapport montre qu'en fait, la démocratie, elle a depuis très longtemps plié devant les lobbies et devant l'industrie, que ce soit les États eux-mêmes ou l'Europe, puisque là, il est, où le monde, puisqu'il est question de l'EFSA et de l'OMS, donc la version européenne et la version internationale. Donc il y a une vraie mise en avant des techniques mises en œuvre par l'industrie pour arriver à faire que tous ces produits ultra dangereux soient perçus par des détournements scientifiques, parce qu'ils soi-disant ils reposent sur des actions scientifiques, mais en fait ils arrivent à minorer les vrais effets scientifiques à travers leur méthode, hein, puisqu'ils imposent leur méthode à l'EFSA et à l'OMS, à faire que finalement ce qu'on présente comme des résultats scientifiques ne le sont pas, en tout cas ne sont pas justes scientifiquement, et finalement on a les conséquences qu'on a aujourd'hui avec des développements de certains cancers dont on a de forts doutes, hein, sur l'impact qui viendrait en fait de l'impact environnemental des pesticides, notamment la prostate et du sein, des cas de l'attaque des abeilles, la disparition des abeilles, l'autisme qui se développe énormément, qui aurait aussi d'autres raisons de se développer. Enfin voilà, c'est un rapport qui est intéressant si vous avez du courage à lire. Vous avez tout le détail. C'est impressionnant de voir comment les lobbies, et notamment le lobby de l'industrie des pesticides, est arrivé à s'incruster dans toutes ces instances-là, alors que ceux qui défendent les populations et finalement les animaux et la vie sur Terre, eux, ont du mal à se faire entendre. Il y a même des témoignages, des exemples de réunions où en fait, il reste que les instances européennes ou internationales et l'industrie. Il n'y a aucun moment le peuple, les écolos, les scientifiques indépendants qui sont partie prenante. C'est très très impressionnant de voir finalement ce déni de démocratie que porte l'industrie des produits chimiques en général, et là pour le coup des pesticides. Et puis pour terminer cette petite rubrique environnement et énergie, on a, puisqu'on est en début d'année 2018, le bilan de la consommation d'énergie renouvelable en Europe en 2017, en France, je vais parler de la France d'abord et en Europe après, en France, et en France, 18,4% de l'électricité de cette année 2017 a été produite par des renouvelables, ce qui est moins bien que l'année dernière. On doit être le seul pays du monde où on produit moins d'électricité d'origine renouvelable l'année dernière que l'année d'avant. C'est pas mal quand même. Ça démontre un peu le non-effort qui est présent en France. Alors il y a une raison, c'est qu'en France, le renouvelable vient essentiellement de l'hydraulique et qu'il y a eu l'année dernière beaucoup moins de pluie. Du coup, il y a eu donc moins d'eau dans les rivières et dans les fleuves et du coup moins d'électricité fabriquée par grâce à l'eau. Même si dans le rapport on nous explique quand même qu'il y a un développement de l'éolien et du solaire, ça reste tellement faible en France actuellement par rapport à l'hydraulique que on fait exception. On est le pays qui a l'année dernière moins fabriqué d'énergie, d'électricité d'origine renouvelable. On remerciera au passage EDF, hein, qui est en grande partie responsable de tout ça. Et sur l'Europe, du coup, je vais finir cette rubrique avec l'Europe. On a une bonne nouvelle. L'année dernière, c'est la première fois que les énergies renouvelables ont produit plus d'électricité que le charbon. On est à 20,9% du mix électrique européen fourni par des renouvelables et 20,6% par le charbon. Alors c'est pas beaucoup la différence, mais c'est symbolique, c'est la première fois. Et c'est symbolique, et c'est pas que symbolique, on sait, et les chiffres le démontrent, que on produit de plus en plus d'électricité par du renouvelable, et les chiffres l'ont montré, de moins en moins par le charbon, puisque pas mal de pays, les Pays-Bas, l'Italie, le Portugal par exemple, ont annoncé la sortie du charbon. Bon, ça résout pas tous les problèmes liés aux pollutions liées aux hydrocarbures, hein, parce que c'est pas l'électricité qui est le pire là-dedans, c'est bien évidemment le transport routier dont on n'arrive pas à sortir, quel que soit le pays d'Europe, même s'il y a des pays qui sont largement plus en avance que la France. Mais voilà, c'était pour dire que c'était une bonne nouvelle, le charbon recule, le renouvelable augmente en Europe.
Alors on va continuer en reparlant de Lactalis, mais c'est vraiment, ça va être très rapide, c'est juste pour le plaisir de taper encore sur Lactalis. Mais vraiment, je vais être honnête avec vous. Ça me fait juste plaisir. C'est Robin des Bois qui s'énerve un petit peu. Vous savez, c'est une association écolo. Lactalis explique donc que pour se débarrasser de son lait contaminé à la salmonelle, il suffit de le jeter ou de le ramener en pharmacie. C'est bizarre parce que la direction générale de l'alimentation explique qu'il faudrait plutôt incinérer ces produits.
Ouais, le détruire vraiment, quoi.
Donc ça fait râler Robin des Bois qui s'énerve souvent, hein, d'ailleurs sur l'industrie agroalimentaire qui, quand on a des problèmes avec les œufs, avec tout un tas de produits, nous incite pas vraiment à nous en débarrasser correctement.
Non, juste à les jeter.
À les jeter. Ouais. Voilà. Donc ça énerve les militants de Robin des Bois qui aimeraient bien savoir pourquoi on peut jeter tout ça à la poubelle. Parce qu'en fait, Lactalis explique que mais c'est pareil de mettre à la poubelle vu que nos ordures, elles sont incinérées. Sauf que l'association rappelle une petite chose, c'est qu'il n'y a qu'un tiers de nos déchets qui sont incinérés. Le reste, hein, c'est...
Enfoui.
Vous voyez, c'est pas vraiment brûlé. Donc ça veut dire qu'en fait, ça reste là, la cochonnerie. Et c'est juste une réalité, c'est que Lactalis continue à dire en fait des bêtises. Et heureusement, il y a des gens derrière qui surveillent un petit peu ce que peut dire cette industrie particulière, hein, qui est quand même l'agroalimentaire. Et en tout cas, on signale que derrière, il n'y a pas bien plus de contrôle sur ce que peut raconter Lactalis. En fait, ça continue quand même un petit peu dans la même teneur. C'était très rapide, je vous avais dit.
Voilà, alors moi je vais faire trois petites infos nucléaires et donc un petit peu radioactives. On va aller au Japon qui n'a toujours pas résolu ses problèmes depuis la catastrophe nucléaire de 2011. Et c'est l'entreprise qui possède la centrale de Fukushima qui est concernée, c'est Tokyo Electric Power, on dit TEPCO en abrégé, qui a été condamné à payer la somme de 1,1 milliard de yens à 318 anciens résidents de l'arrondissement Okada de Fukushima, qui est environ une vingtaine de kilomètres de la centrale. Alors c'est pas la première fois, hein, qu'ils donnent de l'argent à ceux qui ont subi la catastrophe nucléaire, mais ça c'est un supplément que leur a accordé l'État. Alors ils sont condamnés régulièrement à payer ces sommes-là. Alors, on rappelle que TEPCO a été sauvé du dépôt de bilan, hein, par l'État japonais, hein, puisque voilà, aucune entreprise nucléaire n'est capable de payer le coût d'un accident nucléaire, bien évidemment. Mais donc voilà, c'est plutôt un truc positif. Il faut savoir que c'est très compliqué, que dans cette région d'Odaka, les Japonais ont à nouveau le droit de revenir, mais que la majorité des gens reviennent pas. Ceux qui ont des enfants, ils refusent de revenir. Ils ont peur pour leurs enfants. Les personnes âgées, c'est aussi compliqué. Du coup, très peu de personnes reviennent vivre dans ces zones qui sont censées être décontaminées, mais qui font toujours quand même très peur. C'est des zones qui sont à une vingtaine de kilomètres de la centrale accidentée. Donc voilà, bon, c'est pour dire que la situation reste compliquée là-bas. On parle pas non plus de ce qui se passe sur le chantier, puisque ça n'avance que très doucement, tout ça. Et on va parler maintenant de la loi de programmation militaire qui va concerner le nucléaire. Donc la loi de programmation militaire va permettre, ce qui est annoncé, de débuter la modernisation des composantes nucléaires, sous-marines et aériennes. Bon, grosso modo, ça signifie qu'une nouvelle classe de sous-marins nucléaires va être fabriquée, de nouveaux missiles vont être fabriqués et de nouvelles bombes atomiques vont être fabriquées par la France, puisque on parle de la France ici. Tout ça doit être mis en place entre 2030 et 2050. Les lois de programmation militaire sont prises bien longtemps à l'avance. C'est toujours comme ça. Bref, la France relance la course aux armements nucléaires. Alors on sait que les Américains l'avaient fait il y a quelques semaines avec leurs mini-bombes, là, leur projet de fabriquer des bombes moins puissantes, des bombes atomiques moins puissantes pour s'en servir plus facilement. Bah la France prend le relais, tout ça, de cette relance de la course aux armements. Donc c'est la 14e loi de programmation militaire, donc ça devrait couvrir deux mandats présidentiels, 2019-2025, c'est les dates fournies pour être mis en place, donc je vous l'ai dit, progressivement 2030 et 2050. 14e loi, donc exceptionnelle, puisque dans les lois précédentes, on ne parlait plus de modernisation de l'armement nucléaire. Il y a eu quelques micro-débats, mais c'était pas retombé dans la loi de programmation militaire. Et ben ça y est, c'est remis en avant. C'est la volonté de Monsieur Macron, hein, qui est fan de guerre nucléaire, vraisemblablement, qui est fan des armes nucléaires et qui est fan de la course aux armements. Alors peut-être parce que pour lui, tout ce qui fait gagner de l'argent des entreprises est bon, même quand c'est la mort. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est derrière ce 14e projet de loi. Alors historiquement, on rappelle, hein, c'est de Gaulle qui avait lancé ce principe de loi de programmation militaire pour lui créer d'ailleurs à l'époque les premières bombes atomiques et la première phase, première étape de la force de dissuasion française. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors ça va coûter très très cher, hein, ça coûte 6 milliards d'euros par an. Donc à partir du moment où ça va commencer, c'est-à-dire à peu près vers 2025, hein, on vote largement à l'avance, pour au moins 10 ans. Donc en gros, ça va coûter quand même beaucoup d'argent, hein, 60 milliards à peu près. La loi précédente, la 13e, loi de programmation militaire, avait coûté au budget de l'État 23,3 milliards. Donc là, on est à plus du double. Bah, faut dire que refaire des bombes atomiques, remoderniser la force de dissuasion, ça coûte très très cher. Donc là, l'État a décidé d'investir dans l'armée et dans la guerre. Alors, au niveau débat démocratique, il y a presque rien. Pendant la campagne, on en parle assez peu. Il n'y a jamais eu un vrai débat sur la dissuasion nucléaire. On rappelle que on fabrique quand même des armes qui coûtent des milliards et qui ne servent à rien. Celles qu'on a fabriquées depuis les années 60 n'ont servi à rien. Alors, vous me direz, bien heureusement, ben oui, mais tous ces milliards, on aurait pu les investir dans l'économie, enfin, dans le social. Et peut-être empêcher des gens d'être à la rue, de mourir de faim, ou de souffrir de la faim plutôt, et de souffrir du froid. Mais non, Macron décide qu'il est plus important d'investir dans l'armement nucléaire. Alors, autre impact, hein, du projet de loi voulu par Macron et ses ministres, c'est que d'un seul coup, la France va plus du tout respecter le traité de non-prolifération nucléaire qu'on avait signé. C'était en 1992, où on s'engageait à réduire l'armement nucléaire. Puisque là, on en remet plein, on en refabrique plein, on relance cette course à l'armement nucléaire. Bon, vraisemblablement, les parlementaires qui obéissent au doigt et à l'œil à Macron, à leur chef, à leur idole, à leur dieu, je sais pas comment faut l'appeler, puisqu'il y a assez peu de résistance au sein de la République en marche et de contestation, ils vont voter avec amour, j'imagine, cette loi qui fait que la France va plus respecter ce traité de non-prolifération nucléaire, mais vraisemblablement, pour l'instant, ils s'en foutent. On n'a eu aucun écho. Voilà, très mauvaise nouvelle donc pour le monde, on va dire, et puis pour la France et pour le budget de la France. Et puis la dernière mauvaise nouvelle sur le nucléaire, c'est EDF qui quand même se moque de nous, et se moque notamment de Nicolas Hulot. Puisque on rappelle que le ministre de la Transition écologique et solidaire, qui est Nicolas Hulot, qu'il y a quelques petites affaires qui sont sorties sur peut-être des agressions sexuelles, on n'a pas plus d'infos, du coup on n'en parlera pas beaucoup, on n'en parlera pas, mais qui a quand même demandé, fait voter et a poursuivi un peu ce qui avait été fait par le gouvernement précédent, de diminuer la part du nucléaire dans la production d'électricité. Il avait fixé des dates, et là EDF vient de s'asseoir totalement dessus en disant que de toute façon, ils n'allaient pas arrêter ils n'allaient pas baisser la production d'origine nucléaire avant 2029 au moins. Voilà. Puisqu'on rappelle, la seule centrale qui va être fermée, c'est Fessenheim, mais elle est plus que compensée par l'EPR de Flamanville qui devrait débuter fin 2018, début 2019, quand le chantier sera terminé avec moult années de retard et un dépassement inimaginable de plusieurs milliards. Donc voilà, c'est juste pour rappeler qu'EDF, qui est une entreprise qui est quand même en gros lien avec l'État, continue de faire un peu ce qu'il veut, respecte même pas le gouvernement et n'a jamais respecté d'ailleurs quoi que ce soit du débat démocratique, puisqu'il n'y a jamais eu de débat démocratique sur l'énergie nucléaire en France.
Alors on va parler de toute autre chose, on va parler de Monsieur Wauquiez, si tu veux bien tout de suite. Je vous rappelle que Monsieur Wauquiez, c'est notre chef à nous, bien aimé.
Le chef de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Bien aimé, évidemment, vous aurez compris.
C'est ironique.
Le sarcasme derrière ces petits mots. Vous avez certainement aussi entendu que notre bon président, Monsieur Macron, a décidé de retenir la commémoration du génocide arménien comme quelque chose d'important dans notre pays. C'est plutôt une bonne chose.
Tout à fait.
Sauf que Monsieur Macron nous fait toujours des petites sorties sur l'histoire, le patrimoine, et qu'on attend donc que tout ça soit bien bien fait, et que ce soit réel.
Il y a une grosse communauté arménienne, et c'est toujours intéressant de se mettre cette communauté dans la poche pour les futurs votes.
Oui, bah écoute, on espère que ça va au-delà d'une question de vote. C'est pour ça que.
Mais après, je crois pas. Mais bon. Bah,
oui, bon, on se souviendra effectivement que M. Wauquiez avait été se balader avec M. Sarkozy à l'époque, justement pour aller voir les Arméniens aussi, pour se dire que peut-être qu'en période électorale, ça aurait pu être. Il faut aller manger un petit peu de tous les côtés, peut-être pour pouvoir gagner des élections. En tout cas, M. Wauquiez a toujours de grandes idées pour faire des économies à la région. Et donc, après Izieux, où il avait voulu nous enlever à la maison d'Izieux, le maire des enfants juifs, dans l'Ain, quand même, il avait voulu enlever
du budget,
la subvention. Et ben là, il a eu une nouvelle idée, c'est enlever la subvention au Centre National de la Mémoire Arménienne, qui se situe à Dessine. Donc, c'est quelque chose qui est assez récent, puisque ça date de 2013. Ce centre. Donc c'est encore un lieu qui a besoin encore de budget, à la fois parce que c'est un lieu qui est excentré, qui est à Dessine. Donc il faut aussi que des écoles lyonnaises puissent y aller. C'est bien, enfin quand je dis lyonnaise, c'est de la métropole lyonnaise, bien évidemment.
On rappelle qu'il y a une raison que ce soit Dessine, parce que c'est là où il y a la plus grosse communauté arménienne.
Tout à fait, tout à fait.
Et historiquement d'ailleurs.
La ville de Dessine est investie financièrement sur ce lieu, donc c'est bien. La métropole de Lyon aussi, la ville de Lyon pas trop, mais finalement c'est pas du tout même. Mais
elle n'est pas concernée du coup.
Voilà, elle est moins concernée. Il y a l'État, et donc il y a la région qui est gros subventionneur quand même de ce lieu, qui est important, un lieu de mémoire, d'histoire, de patrimoine, qui est un lieu collectif, enfin en tout cas nous, on le vit comme tel. Et donc M. Wauquiez a décidé de faire des économies sur ce lieu-là, excusez-moi, j'en bafouille. Et donc les présidents de l'association ont donc appris qu'il n'aurait pas, pour 2018, de subvention. Ah, la grande bonne idée. Et alors, retournement de situation, parce qu'il faut savoir que la presse nationale a fait des papiers dessus. Ouais.
La communauté arménienne a dû secouer tout ce qu'ils pouvaient secouer dans leurs relations, et Wauquiez a été obligé de faire volte-face.
Je vous rappelle que Wauquiez a maintenant une position nationale, n'est plus juste un petit président de région nous.
Non, mais il vise la tête.
Et il vise la tête. Il a déjà la tête d'un parti, maintenant il veut la tête de la tête, de l'État, donc on s'entend bien là-dessus. Donc il faut évidemment, vous avez un papier dans Libé contre Monsieur Wauquiez, ça c'est pas beau, même si c'est la gauche et qu'il n'aime pas la gauche, ça fait pas propre. Donc il y a eu un volte-face. Alors c'est intéressant parce qu'il y a eu deux raisons de ce volte-face. Deux raisons. Il y a une raison qui est en fait la demande de subvention du Centre National de la Mémoire Arménienne n'avait pas atterri sur le bon bureau. Oh. Je vous la fais courte. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait plus du tout de sous. Mauvais bureau, pas de sous. Bon bureau, plein de sous. Vous voyez, c'est bête que finalement la fonction publique, la collectivité territoriale, quand ça veut pas, ça veut pas. Et donc a priori, là, il y a eu une porte qui s'est pas ouverte au bon endroit. Le courrier a été mal déposé. C'est toujours finalement les petites mains qui font mal leur boulot, qui
ont
mal mis l'enveloppe, ou alors c'est carrément les gens du Centre National de la Mémoire Arménienne qui n'avaient pas mis la bonne adresse. Allez savoir. Donc ils sont revenus là-dessus en disant.
C'est pas très crédible quand même.
Ben, je trouve que c'est un peu gros comme excuse. Ouais. Ce qui était expliqué, en fait, qui n'est pas une excuse, mais ce qui était expliqué de pourquoi le Centre National de la Mémoire Arménienne n'avait plus ses sous, c'est qu'en fait, la région avait décidé de réorienter le partenariat avec l'Arménie, je cite, c'est-à-dire de prioriser, je cite encore, des projets concernant le développement économique et le renforcement des courants d'affaires entre les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes et celles de l'Arménie.
C'est vrai que l'Arménie a quand même beaucoup de besoins. Enfin,
ça a fait dire quand même au Centre national de la mémoire arménienne, c'est quoi le rapport entre l'économie et la mémoire ?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Excusez-nous, mais là, il y a quand même des enjeux qui sont différents. Dans les deux cas, il y a de l'enjeu. D'accord ? Mais là, si c'est l'idée de donner du pognon pour que des entreprises de la région aillent se développer économiquement en Arménie, c'est limite, parce que c'est pas non plus pour venir en aide à l'Arménie, c'est pas dans ce sens-là, et c'est bien dans le sens de soutenons l'économie de la région qui pourra aller du coup en Arménie, mais on voit pas bien pourquoi du coup on enlève un lieu de mémoire collectif de l'argent. En tout cas, l'argent devrait revenir, certainement pas comme l'année dernière, parce que l'année dernière ils ont eu 45 000 euros, on va être plus proche des 30 000 d'après ce que la région fait savoir, mais en tout cas il devrait quand même y avoir encore des sous, bien heureusement.
C'est à moi, ça ?
Ouais.
Oh ! Alors, je vous ai parlé de Macron et de ses amis qui mettent plein d'argent dans l'armée. Maintenant, je vais vous parler de Macron et de ses amis qui mettent plein d'argent dans la police. Ah bah oui, puisqu'on l'attendait, on l'attendait, on l'attendait. Gérard, dit le G, c'est-à-dire Gérard Collomb, notre ancien... je sais pas, un empereur lyonnais, qui est maintenant ministre du tabassage des citoyens, on appelle ça ministre de l'Intérieur dans les termes officiels, a parlé
de ça. Le ministère de la Matraque, ça s'appelle.
Voilà, aussi. Il a annoncé ce que ça allait être, sa nouvelle police, la police de sécurité du quotidien, la PSQ, ou PSDQ, je sais pas comment ils vont dire.
Je vous laisse PSQ, même pas imaginer le débat que ça a entre nous, enfin, il n'y a pas de débat, en fait, mais on en a discuté très longtemps, en fait.
Alors, grosso modo, ce qu'il va y avoir dedans, c'est davantage de moyens dans la flicaille. Ça, c'est sûr. Donc, la mise en place de cette police devrait mobiliser 1300 policiers de plus, 500 gendarmes de plus. Donc, on prend des gens, on embauche des gens dans 20 départements prioritaires. 10 000 créations de postes en tout sur tout le quinquennat. 3 milliards d'euros de crédit pour l'immobilier, les équipements, les voitures qui vont vite.
Les tablettes. J'ai vu qu'on allait leur donner des tablettes aussi.
Du coup, on va les numériser. Parce qu'il faut faire des économies, il faut les rendre plus efficaces. Donc, il y a les fameuses tablettes. Et oui, ils vont leur donner des tablettes.
J'ai entendu que Collomb disait que
à la
criminalité numérisée, il fallait répondre la guerre numérisée.
C'est n'importe quoi. Mais bon, bref. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer certaines tâches. C'est-à-dire que la partie administrative, ils vont l'enlever aux flics, ils vont la sous-traiter à des entreprises privées.
C'est chouette.
Ça coûte toujours plus cher, ça, mais idéologiquement, c'est un truc vraiment de droite libérale, ce qu'est Collomb depuis de nombreuses années. Le facho de service, comme il dit, puisqu'il n'aime pas qu'on... Il trouve qu'il passe toujours pour le facho de service. Bon, enfin, n'empêche, il fait que des lois de facho de service. Donc voilà, il y aura une simplification de la procédure pénale, une dématérialisation de la procédure pénale, avec un renforcement des pouvoirs des officiers de police judiciaire. C'est super, ils avaient déjà pas assez de pouvoir. Le citoyen, il a aucun pouvoir, et les officiers de police judiciaire en auront de plus en plus. Voilà, il y a le transport, ils vont avoir plus de moyens d'embêter les délinquants, grosso modo, d'aller plus vite, de faire que la justice elle agisse vraiment, les mettre vraiment en prison, tout ça, des trucs comme ça. Donc des quartiers ont été choisis, et je vous annonce, et vous allez être content qu'un quartier de Lyon a bien évidemment été choisi, c'est le 8e.
Chouette, ils vont être contents dans le 8e, les habitants.
Ils vont
avoir
leur police de sécurité quotidienne, avec plus de flics, plus de matraques, plus de
tablettes numériques. Moi, je suis fan de cette annonce.
Ouais, alors du coup, dans les tablettes numériques, c'est 110 000 quand même.
C'est un gros chiffre.
Ouais, ils en achètent beaucoup. J'espère qu'ils vont prendre des tablettes fabriquées en France, tout ça, un truc que ça fasse tourner l'économie, tout ça. Des tablettes biodégradables, tu vois, économie locale, circulaire, tout ça. Non, ça va pas être ça, tu crois? Il adore travailler avec Microsoft, donc lui, il va pas faire du libre.
De toute façon, on nous a déjà prévenu, c'est très très différent de la police de proximité de Jospin.
Oui, celle où il joue au foot, là.
Ouais.
Donc, du coup, l'image que tout le monde a gardée, ce qui n'était pas tout à fait la réalité. Mais
non, du coup, on s'est beaucoup demandé dans la discussion qu'on a eue ensemble, ça va être quoi la différence avec la BAC?
Ils diront bonjour avant de taper.
Voilà, parce que nous, on a un peu du mal, parce que dans nos quartiers, on croise souvent une police de proximité, ça s'appelle la BAC, qui intervient dans les squats dont je parlais au début. Donc, du coup, on a un peu du mal à voir c'est quoi la police de proximité.
Elle dira bonjour. Moi, je pense que c'est ça, et ils vont leur apprendre à dire bonjour. Ce qui est intéressant, parce que tout ce qui est annoncé, il y a plus de détails que ce que je n'en raconte, que je ne vais pas tout raconter, mais en fait, c'est orienté que sur la petite délinquance. Sur ceux qui font du trafic de drogue, qui vendent de la drogue, vous savez, c'est mal, la drogue, des choses comme ça. Et l'essentiel, en fait, des problèmes d'argent, de vol, tout ça, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien contre la corruption, rien contre les conflits d'intérêts, rien contre la fraude fiscale. On rappelle que cette délinquance des riches, elle coûte beaucoup plus d'argent à l'État que la délinquance des pauvres. Sauf qu'il n'y a que la délinquance des pauvres qui est attaquée dans le projet de loi par M. Collomb. Bien, alors on s'est dit, il y a une question de formation qui est dit, ils vont être formés. Mais il n'y a rien sur une grosse problématique de la police, c'est l'implantation des idées d'extrême droite au sein des forces policières. Notamment ceux qui sont tout en bas de l'échelle, là, les CRS, la flicaille, la BAC, les champs comme ça. Il y a un vrai problème de fascisme. Et ça passe peut-être par l'éducation, par plein de choses, la formation. Et ça, il n'en parle pas du tout. Pourtant, il connaît très bien le problème. Mais non, il n'en parle pas. Donc c'est vraiment toujours orienté contre le petit délinquant, les problèmes dans certains quartiers qui sont réels, mais qui sont abordés que d'une manière répressive. D'ailleurs, Gérard Collomb n'annonce aucune mesure sociale. Il annonce que des mesures répressives. C'est la solution mise en place par ce ministre qui est finalement le facho. Il n'a pas besoin d'être de service, c'est le facho du gouvernement, il y en a d'autres, mais on peut quand même le dire, c'est une police de répression, il n'y a aucune mesure sociale annoncée par le ministre de l'Intérieur.
Bah d'ailleurs, là, M. Colomb est aussi un libéral, donc il veut donner de l'argent à des entreprises, et donc le fait de vouloir développer les sociétés de sécurité côte à côte, hein, ce qu'il a déjà voulu pratiquer ici sur Lyon, mais qu'il veut remettre en place en tant que ministre, côte à côte, les services privés, donc les sociétés de sécurité et la police, c'est aussi intéressant. Parce que là, du coup, c'est donner du pognon à des entreprises privées, hein, et puis désengager l'État par ailleurs. Ça vous fera pas moins de répression, hein, il faut bien être clair là-dessus. Et vous avez dû certainement lire, et si c'est pas le cas, allez donc taper société de sécurité dans tout ce qui peut concerner l'actualité. Et vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de critiques, hein, qui ont été soulevées sur le fait que beaucoup d'hommes et de femmes, mais il y en a un peu moins dans ces sociétés-là, qui ont leur carte, hein, pour être agents de sécurité, et sont des violents, par exemple.
Ou voire des délinquants. Enfin, du coup, des délinquants. Voilà. Pour violence, pour plein de choses.
Et c'est très intéressant de ce milieu-là qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont plus le droit d'exercer et qui continuent à exercer, qu'il y a des amendes qui ne sont pas récupérées. Allez donc lire Le Canard Enchaîné de cette semaine, qui est un très très bon numéro d'ailleurs. Plein de choses très intéressantes. Et il y a un article sur ces sociétés de sécurité, et en particulier de l'agence qui chapeaute le tout. C'est très intéressant. Il nous reste 4 minutes. Je vais terminer avec Uber, vous savez, une entreprise de petits profiteurs. Il y avait un chauffeur qui a collaboré pendant 2 ans avec Uber. Alors je dis collaborer, moi j'y mets des guillemets. On pourrait dire travailler pour ou travailler avec. 4000 courses effectuées pendant ces 2 années. Et ce chauffeur est allé devant le Conseil des Prud'hommes de Paris. Il réclamait des indemnités pour congés payés, pour licenciement, remboursement des frais professionnels et aussi des indemnités pour travail dissimulé.
En fait, il voulait se faire reconnaître comme salarié d'Uber.
Voilà, se faire requalifier son contrat de travail.
Il y a plein d'actions contre ce genre de plateforme.
Alors, on a eu la réponse du Conseil des Prud'hommes de Paris, qui a débouté le chauffeur en question, estimant que Uber permettait à ses travailleurs de décider en temps réel, hein, de leur travail, et donc ils étaient libres et indépendants, autonomes, ce qui arrange bien Uber, évidemment, hein, cette décision, et puis ça lui permet d'insister à cette multinationale sur le fait que grâce à elle, il y a des gens qui peuvent travailler à leur convenance quand ils veulent, quand elles le veulent, ça les arrange parce qu'ils sont heureux. On travaillera que dans la réalité, ces chauffeurs, ces chauffeuses, conducteurs et conductrices travaillent parfois beaucoup, parfois la nuit aussi, pour pouvoir se faire des revenus corrects.
Mais c'est vrai qu'ils ont le choix de travailler moins et d'être pauvres.
Ouais, voilà. Donc c'est un peu facile de la part d'Uber de considérer qu'ils sont libres et indépendants, qu'ils choisissent leurs horaires et leur lieu de travail. Des profiteurs, tout simplement. Voilà, j'avais rien de plus à en dire. Mais c'est un petit peu... Voilà, on s'attendait pas à autre chose, hein, très sincèrement, comme réponse de la part du Conseil des Prud'hommes. Par contre, ça continue à emmerder Uber. C'est tout.
Ouais. Alors, je vais faire un petit agenda avant de laisser la place à la petite cuillère. Une soirée organisée par Survie, l'association qui parle de la France-Afrique, hein, de ce qui est arrivé après la colonisation française en Afrique. Donc, ils reçoivent Dongo Silla. C'est demain, vendredi 9 février à 20h. C'est dans le 6e, à la MJC Espace 6, je ne sais pas où c'est 100 rue Boileau, dans le 6e, pour une conférence. Donc, ça 20h sur le franc CFA, qui est une forme de colonisation qui permet à la France de maintenir une main un peu sur les pays de la zone franc, de la zone du franc CFA. Du coup, c'est intéressant de parler de cette nouvelle phase, de cette monnaie qui est pas une monnaie comme ça anodine, qui a un vrai but néocolonialiste, on va dire. Et puis, comme tous les samedis, ça doit faire 2 fois que ça arrive, je crois, une manif pour soutenir les Kurdes qui sont attaqués par les Turcs, à Afrin notamment, samedi, on sera le 10 février, 15h30, place Bellecour. C'est important de se mobiliser aussi, puisque Macron ne dit rien, n'envoie pas de protection sur les habitants d'Afrin, qui déjà sont débarrassés de Daesh, et qu'on avait mis en avant là-dessus, mais maintenant ils se font massacrer par les Turcs. Et là, bizarrement, on ne dit plus rien.
Eh ben nous, on va se retrouver sinon la semaine prochaine.
Oui.
Hein, jeudi prochain. Sortez, allez au ciné, allez au théâtre, cultivez-vous, allez au musée, rencontrez des gens. Ouvrons notre esprit davantage sur ce qui nous entoure et puis continuez à militer et à lutter, à résister. Et on se retrouve la semaine prochaine et on vous laisse donc avec la petite cuillère.
Voilà, juste une petite info, la semaine dernière j'ai oublié de l'annoncer, la causerie avait fait une émission avec une invitée qui travaille dans une EHPAD, on a parlé des conditions.
Et nous on n'en a pas parlé mais on vous renvoie sur les autres.
Ouais. Voilà, et le blog de la causerie a mis en ligne cette émission et vous aurez plus d'infos sur les conditions de travail et de vie des gens qui travaillent et qui vivent dans les EHPAD.
Ciao ciao, à bientôt.
Bye bye, la causerie tout de suite.
Non, pas
la causerie, c'est la petite cuillère. C'est sur les prisons, la petite cuillère.